L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire qui nous fait glisser doucement dans le week-end. Cette semaine, nous sommes entrés dans le mois de novembre, ça ne vous a pas échappé. Le manteau neigeux est apparu sur les sommets, un peu partout en montagne, la limite pluie-neige a baissé. Le vent souffle même très fort dans certaines régions. Les arbres perdent leur feuillage, bref, c'est l'automne pour de bon, pour de vrai. Et je vous propose une émission, disons, forestière ce vendredi soir. Vous avez peut-être profité des vacances scolaires pour aller promener en forêt ou ramasser des châtaignes. Gilles, mais avez-vous pris le temps d'observer les forêts? Est-ce que vous savez comment ces forêts sont gérées? Eh bien, on vous dit tout ce soir. Claire Broc et Gracia est mon invité de cette heure de pointe.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Bonsoir Claire Broc et Gracia.
Bonsoir Anne-Rose.
Vous êtes ingénieur forestier au CNPF, c'est le Centre National de la Propriété Forestière. Vous travaillez pour la délégation de la Nouvelle-Aquitaine. Vous travaillez avec les propriétaires des forêts privées. Et ils sont nombreux, hein, puisqu'ils représentent environ 3,5 millions de citoyens en France qui sont donc des propriétaires de forêts. On va creuser un peu le sujet, c'est la bonne saison pour ça. Et puis l'actualité nous fait regarder les forêts de plus près avec malheureusement tous ces arbres qui sont tombés avec le passage de la tempête. Ces propriétaires des forêts privées, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des héritiers de grandes propriétés forestières qui se retrouvent avec des forêts immenses à gérer? Est-ce que ce sont des personnes qui tout d'un coup, par passion ou par souhait de changer de vie, investissent, achètent de grandes forêts? Qui sont-ils?
Alors, ces propriétaires forestiers, ils sont nombreux en France, hein, comme vous l'avez dit, 3,3 millions d'hectares de particuliers, de personnes, hein, comme vous et moi, qui ont des forêts. Alors, le plus souvent, c'est vrai, ce sont des propriétaires qui ont hérité de parcelles forestières familiales et qui les entretiennent, hein, qui les gèrent. Avec notre accompagnement, puis avec des experts forestiers, parfois tout seuls. Quelquefois, également aussi, ce sont des propriétaires qui sont devenus propriétaires en achetant des forêts, tout simplement parce qu'ils avaient découvert la forêt et le monde forestier et ils avaient envie de devenir sylviculteurs.
Est-ce que ça s'apprend à gérer une forêt quand on a comme ça une forêt? Est-ce qu'on a le droit d'abord d'avoir une forêt sans l'entretenir?
Alors, on a le droit d'avoir une forêt et de ne pas y toucher, de la laisser pousser toute seule. Oui, c'est possible.
Ça devient la jungle rapidement.
C'est possible, ça devient la jungle rapidement. Ce n'est pas du tout conseillé parce qu'en fait, une forêt, eh bien, elle a besoin de la main de l'homme pour pousser, on va dire, correctement, alors correctement entre guillemets, pour produire du bois de qualité, du bois qui pourra être utilisé dans la construction, qui pourra être utilisé dans l'ameublement. Voilà, sans l'intervention de l'homme, la forêt pousse, c'est vrai, mais elle ne pousse pas toujours en qualité. Et nous avons besoin du bois d'œuvre, du bois de qualité, pour pouvoir utiliser ce bois, en fait.
Et c'est ça, votre travail, c'est d'accompagner, d'aller voir ces propriétaires et de leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'ils peuvent peut-être réparer s'ils ont entamé une mauvaise gestion?
Alors, tout à fait. Alors, une mauvaise gestion, ça peut arriver, c'est vrai. Nous, notre mission au Centre National de la Propriété Forestière, hein, donc nous sommes un établissement national au service des particuliers qui ont des forêts, c'est de les accompagner pour un conseil qui est gratuit et un conseil qui est neutre. Donc souvent, nous répondons à leur appel, nous allons les voir sur site, hein. Nous visitons la forêt avec eux, quelle que soit la surface, 1 hectare, 10 hectares, 25 hectares. Et effectivement, en faisant le tour des bois, nous leur expliquons les règles de gestion pour que la forêt puisse pousser et produire du bois de qualité. Alors ces règles, elles sont très variables, hein, parce qu'en fait, on ne gère pas de la même façon un bois feuillu qu'un bois de résineux. Les règles sont variables en fonction des âges de la forêt, en fonction de la typologie de la forêt. Donc effectivement, il y a, on va dire, le conseil pour chaque propriétaire est un conseil vraiment spécifique, vraiment propre à la propriété et au propriétaire également en fonction de ce qu'il souhaite faire dans sa forêt.
C'est le propriétaire qui vous fait appel, qui, quand il sent que... il est dépassé ou qu'il sait parce que ça lui semble peut-être évident qu'il faut un accompagnement et qu'il ne peut pas faire n'importe quoi.
Alors, c'est le propriétaire effectivement qui nous appelle, souvent parce qu'il a acheté des parcelles, souvent parce qu'il a hérité d'une forêt. Il peut arriver que le propriétaire ne sache pas bien où sont les parcelles. Donc on fait le tour avec lui, on repère les parcelles, on repère les limites, voilà, on diagnostique l'état des peuplements. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, quel âge a le peuplement ? Est-ce que c'est du chêne, du hêtre ? Quel âge a le peuplement ? Je vous donne des exemples. Est-ce qu'il est en bon état sanitaire ? Est-ce qu'il faut éclaircir, c'est-à-dire enlever quelques arbres pour que les arbres puissent pousser en diamètre ? Est-ce que le peuplement, au contraire, est dépérissant ? Et dans ce cas-là, il faut tout couper et reboiser ? Ou alors, est-ce qu'il faut faire une coupe d'ensemencement, justement, parce que nous sommes au stade où la forêt est suffisamment mature pour pouvoir... pour être en âge de se renouveler. Et là, dans le cas précis, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la régénération naturelle pour que la forêt se renouvelle.
Quels sont les signaux d'une forêt qui va mal ?
Alors, les signaux d'une forêt qui va mal, souvent des branches mortes en haut des arbres, des feuilles sèches, des aiguilles de résineux qui sont inexistantes, qui sont marrons. On peut avoir aussi pour des forêts résineuses des coulures de résine sur le tronc. Un houppier, le houppier c'est la tête de l'arbre avec des feuilles. Un houppier qui n'est plus d'un vert très franc, on sent que la masse foliaire est moins importante qu'elle ne le devrait, que les feuilles sont ternes. Voilà, ce genre de choses.
Ça veut dire que pour repérer tout ça, vous devez visiter les parcelles plusieurs fois dans l'année, à chaque saison ?
Alors,
il y a des choses qu'on peut observer l'été et pas l'hiver ?
Tout à fait, il y a des choses que l'on peut observer l'été et pas l'hiver. Nous avons pas seulement dans notre organisme, mais aussi à l'Office national des forêts, à la Chambre d'agriculture, auprès des experts forestiers, un réseau qui s'appelle le réseau Santé des forêts, le département Santé des forêts, qui est une organisation nationale avec des techniciens partout sur le territoire de la France. Et effectivement, ces correspondants observateurs, régulièrement, à l'automne, au printemps, en été, repèrent les forêts, vont en forêt, vont observer les maladies, les taux de reprise de plantation, repérer si tel ou tel parasite est présent, tel ou tel parasite signalé dans une autre région, est-ce qu'il est présent dans la nôtre, à quel degré, à quelle importance, et font remonter toutes leurs observations au niveau régional puis national. Effectivement, ça nous donne une tendance sur l'état général de la santé des forêts.
Donc votre travail, c'est un travail de conseil, d'accompagnement aussi. Comment, quand vous êtes face à un propriétaire à qui vous devez dire, là, la forêt va mal, il faut tout raser, il faut tout couper. Ce sont des frais, c'est un travail. Le propriétaire n'est pas forcément capable de le faire. Comment vous gérez cette partie ? Est-ce que vous gérez après l'après-conseil ?
Alors, déjà, nous gérons la partie conseil, effectivement, de façon aussi... aussi intelligente que possible, j'ai envie de dire. Eh bien, quand la parcelle est dépérissante, il faut le dire au propriétaire, il n'est pas forcément responsable de sa parcelle dépérissante. S'il a eu un pathogène, il n'y peut rien. Il y a plein de risques en forêt, le risque incendie, le risque tempête, le risque agent pathogène. Bon, la parcelle est dépérissante, donc effectivement, en fonction de l'état du dépérissement, soit il faut faire une coupe sanitaire et enlever quelques arbres, soit carrément tout couper. Donc on l'informe à ce sujet-là. On l'oriente parce que nous ne réalisons pas derrière les coupes et travaux. Le propriétaire se met en relation avec un expert forestier.
Et c'est à sa charge.
C'est à sa charge avec un exploitant forestier. En général, les coupes de bois ne sont pas censées être déficitaires pour le propriétaire, mais il fait faire il demande un devis. Et dans le cas où il a une parcelle effectivement dépérissante, surtout en résineux, derrière, il faut la reboiser. Donc là, ce sont des frais. Heureusement, nous avons en France des aides d'État, notamment dans le cadre de France 2030, qui sont prévues pour aider ces parcelles dépérissantes à être reboisées et donc à permettre aux forêts qui ne sont pas en bonne santé de pouvoir demain être renouvelées avec des arbres qui pousseront mieux et qui seront adaptés effectivement au changement climatique.
Alors là, vous nous parlez de propriétaires qui sont finalement de bons élèves, qui ont le réflexe de vous appeler, qui écoutent vos conseils, qui acceptent de suivre vos conseils. Soyons francs, il y a aussi un bon nombre de propriétaires forestiers qui ont des forêts parce qu'il faut couper du bois pour se chauffer. Hein, de plus en plus de personnes se chauffent au bois. Ces propriétaires-là, ils ne se posent pas forcément toutes ces questions. Ils se disent, bon, allez hop, je prends la tronçonneuse, je vais faire mon bois. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a des dangers potentiels pour la forêt?
Alors, il y a des dangers potentiels pour la forêt. Enfin, ce qui peut être dommage, c'est de couper, pour faire son bois de chauffage, des bois qui peuvent faire autre chose que du bois de chauffage, c'est-à-dire qui ont une qualité supérieure à celle du bois de chauffage. Voilà, ça c'est dommage, on va dire, de couper des chênes qui sont mûres et qui pourraient faire des planches pour des meubles et de les mettre dans cette cheminée-là. Effectivement, le bois de chauffage doit rester, on va dire, du petit bois qui gêne les plus gros arbres. Enfin voilà, on fait du bois de chauffage dans une parcelle de bois plutôt jeune et on va relever des bois qui sont tordus, qui sont de moindre valeur. Et justement, le fait de faire du bois de chauffage, hein, d'éclaircir comme ça, peut permettre aux plus beaux arbres de grossir encore en diamètre et peut être un acte sylvicole d'entretien de la forêt.
Ça, on voit qu'il y a une sacrée responsabilité d'être propriétaire forestier, ça s'apprend en fait.
Alors, ça s'apprend, oui, c'est quand même, moi je dis souvent, c'est quand même aussi beaucoup d'observation et de bon sens, en fait. C'est surtout de l'observation. Regardez comment pousse la forêt et couper de façon raisonnée les arbres qui méritent d'être coupés. Voilà, conserver tout ce qui mérite encore de grossir en diamètre, tout ce qui n'est pas mûr et tout ce qui pourra faire à terme du bois de qualité.
Globalement, en France, comment va la forêt ? Et dans la région des Pyrénées-Atlantiques que vous suivez?
Alors, on entend beaucoup de choses. On entend des choses quand même assez dramatiques, hein, sur l'état sanitaire des forêts. Mmh. Alors, comment va la forêt en France? J'ai envie de dire que ça dépend des régions. Nous avons, alors par exemple, dans les Vosges, hein, les épicéas qui sont en train de dépérir et qui sont progressivement remplacés par d'autres arbres plus adaptés, on va dire, au sol et au climat. Donc effectivement, on a une part de la forêt vosgienne qui n'est pas très en forme. Nous avons eu l'année dernière en Nouvelle-Aquitaine et puis en Bretagne quand même des grands incendies, des incendies de forêt importants.
Et ça c'est très long après, ce sont des traces qui durent.
Alors ce sont des traces qui durent, oui, effectivement. Donc il faut couper et puis il faut reboiser, hein, oui. Les propriétaires qui ont eu des forêts incendiées, effectivement, ont eu une perte d'arbres, bien sûr, une perte financière. Et puis aussi, la forêt, pour le propriétaire, c'est aussi un attachement affectif très fort. Donc c'est quand même un traumatisme, il faut le reconnaître. Globalement, dans notre département, là, sur toute la chaîne pyrénéenne, on a plutôt des forêts qui sont en bonne santé, j'ai envie de dire.
Et qui ne souffrent pas trop de la sécheresse. Quand on voit les forêts ici, alors dans les Pyrénées, elles sont encore très très vertes. On se dit qu'on a plutôt de la chance.
Alors nous avons de la chance effectivement parce que nous avons des températures relativement douces dans nos régions et une pluviométrie importante. Donc nous avons effectivement quelques parcelles, hein, que l'on voit qui peuvent être dépérissantes. Parfois ce sont des parcelles de résineux. Ces parcelles, elles dépérissent tout simplement parce qu'effectivement avec le réchauffement, parfois le sol dans lequel elles poussent et l'augmentation des températures font qu'elles ne sont plus tout à fait ce qu'on appelle chez nous en station. Mmh. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus tout à fait adaptées au sol dans lequel elles devraient pousser, qu'elles ont parfois un peu chaud. Bon, ben voilà, ces parcelles-là, bien, on les renouvelle progressivement. Alors, effectivement, hein, il faut veiller à l'état sanitaire de la forêt, mais dans l'ensemble, il ne faut pas non plus être alarmiste. Il faut être confiant et se dire que ben, malgré tout, la forêt, elle pousse, au contraire, justement, pour l'aider à mieux pousser. Ce qui serait vraiment un plus, ce serait que chaque propriétaire prenne conscience qu'il a des parcelles de forêt et se demande ce qu'il peut y faire, justement, pour que la forêt soit entretenue et en état de bien pousser.
Et puis, il y a une diversité qui est intéressante ici, en tous les cas. On a des châtaigniers, des hêtres, on a vraiment de tout. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Quelle est la proportion des espèces d'arbres? Vous souriez parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais enfin, est-ce que c'est comme ça dans toutes les régions ou notre région est particulièrement chanceuse d'avoir une diversité forestière?
Nous avons, au niveau national quand même, nous avons une très très grande diversité forestière. La forêt française est largement feuillu. Nous avons plus d'une vingtaine d'essences d'arbres différentes. C'est une grande chance. Au niveau de notre région, nous avons effectivement, donc on pense de notre grande région sud-ouest, on pense au Limousin où il y a beaucoup de Douglas et au massif des Landes de Gascogne où il y a beaucoup de pins maritimes, mais pas que. Hein, parce que par exemple, même si on voit ces massifs-là, quand on les regarde, effectivement, on voit surtout les essences résineuses, mais il faut savoir, notamment en Limousin, que la forêt limousine est majoritairement feuillue avec du chêne et pas uniquement boisée en Douglas. Hein. Voilà, il faut se méfier aussi de ce qu'on peut voir ou de ce qu'on peut nous faire entendre. Dans l'ensemble, nous ici, nous avons une forêt aussi, c'est pareil, largement feuillue, avec effectivement du chêne, du hêtre, du châtaignier, chêne rouge d'Amérique, du peuplier, du tulipier de Virginie, et puis toute une série de résineux sapins pectineux.
Et c'est ce mélange-là qui fait que la forêt, enfin c'est un plus pour la forêt, pour que la forêt soit en bonne santé.
Effectivement, quand on regarde, quand on dézoome hein, et quand on regarde à l'ensemble de la forêt, cette variété d'essences, cette forêt de petites parcelles assez morcelées, fait qu'on a un patchwork, oui. On va dire une mosaïque d'essences feuillues et résineuses en mélange, qui font que justement la forêt est très très variée et ça nous protège aussi d'attaques d'agents pathogènes, voilà. On est protégé.
Alors on parle
la forêt est protégée.
On parle des arbres, des grands arbres, des gros arbres, mais la forêt c'est pas que ça. La forêt c'est aussi tout ce qui est un peu plus bas. Alors on pense aux fougères et aux ronces, mais il y a pas forcément que ça. Et puis il y a la faune aussi. Quand vous préoccupez des arbres et de la flore de manière plus large, vous devez certainement vous préoccuper aussi de la faune.
Alors effectivement. La forêt, moi je vous parle surtout des arbres, mais c'est un écosystème hein, oui. Qui est fait d'arbres, de sol, de qualité de sol, de strates herbacées, hein, les fougères, de strates arbustives. Voilà, effectivement, il y a plusieurs de mousses, de champignons.
Tout ça, vous l'observez aussi. Vous allez en forêt avec vos bottes, Claire Broquet-Garcia, vous regardez tout ça.
Je regarde tout ça. Alors d'abord, je regarde effectivement les arbres, en haut des arbres, comment sont conformés les troncs des arbres. Mais je regarde aussi au sol. Et effectivement, en fonction des plantes que je vais voir sur le sol, eh bien, je vais savoir si le terrain est plutôt riche ou plutôt pauvre, s'il est plutôt sec, s'il est plutôt humide. Effectivement, on regarde tout ça. Qu'est-ce qu'on a qui est intéressant dans la forêt? On peut voir aussi du bois moratère. Alors, il ne faut pas que ça, mais il en faut un petit peu. Parce que, effectivement, ce bois abrite toute une diversité de champignons et d'insectes décomposeurs qui vont aussi être une nourriture pour les oiseaux. Et en fait, toute cette variété, on va dire, au niveau du sol, au niveau des champignons, au niveau des arbustes, permet d'abriter effectivement des insectes, des champignons, des oiseaux, des animaux. Tout le monde a sa place dans la forêt et effectivement c'est ce qui fait la richesse et ce qui contribue à la diversité de l'écosystème forestier. Donc nous travaillons nous aussi avec tout ça hein, parce qu'effectivement nous intervenons dans un cadre de gestion durable de la forêt. Alors qu'est-ce que c'est la gestion durable? Eh bien c'est le fait qu'on prend en compte dans la gestion forestière, effectivement, la production de bois, mais aussi la conservation de la biodiversité et ce que l'on appelle les attentes sociales de la forêt ou les aménités, c'est-à-dire la production d'oxygène, la rétention de l'eau, le paysage. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et la permanence de la forêt, effectivement, dans l'espace et dans le temps.
Claire Broquet-Gassin, nous marquons une courte pause et puis nous nous retrouvons après Vianney pour poursuivre cette conversation sur la gestion forestière.
Jamais sûr d'être au bon endroit, je regarde le monde et je m'y fais pas. Immonde et sublime à la fois, je me pose 1000 questions par jour. Je suis au tiers du parcours, est-ce que vivre vieux vaut le détour? On veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. L'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. De jeune et docile, on finit fossile. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire? Je suis prêt à me battre encore 1000 ans, et je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur. Non pas des liens mais du pire. Monte les mers, fane les fleurs. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent, et tout ça ne changera pas. C'est fini les lèvres, fini les rêves, fini les dix papas. Toi qui as vécu 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis ou ici bas?
Maintenant, mais pas après. Chéri, l'instant, balaye le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chéri, les gens, balaye les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi, j'ai pas l'heure.
J'ai fait mon sac 100 fois, un jour on le fera pour moi. Et je le saurai même pas, mais ce sera la dernière fois. J'y pensais jamais, pourtant je devrais. Pourtant je sais que je vais pleurer si j'ai rien vécu d'ici là. Donnez-moi d'être pardonné, jetez-moi si j'ai rejeté. À quoi bon le pouvoir des mots s'il ne sert au devoir d'aimer? Pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret, c'est maintenant, mais pas après. Chéris l'instant, balaye le passé. Certains voudraient vivre vieux, c'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chéris les gens, balaye les regrets. J'ai pas l'heure,
tant mieux.
Certains voudraient vivre vieux.
Moi je veux partir heureux.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Alors que la France vient de subir le passage de la tempête Ciaran ce 2 novembre, une tempête qui a touché surtout le nord du pays et qui a causé la chute de nombreux arbres, eh bien nous nous intéressons dans cette heure de pointe à la gestion des forêts privées qui représentent 75% des forêts qui couvrent l'ensemble du territoire français. Et nous sommes en compagnie de Claire Broquet-Gracia. Claire Broquet-Gracia, je rappelle, vous êtes ingénieure forestier au CNPF, c'est le Centre National de la Propriété Forestière. Vous travaillez au sein de la délégation des Pyrénées-Atlantiques. Non, vous rigolez parce que je me suis encore trompée. La Nouvelle-Aquitaine.
Alors, je travaille au sein de la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine et je suis responsable effectivement pour la forêt privée au Centre National de la Propriété Forestière pour le département des Pyrénées-Atlantiques et le Sud-Adour.
Voilà pourquoi c'est compliqué. En tous les cas, vous êtes la bonne personne pour nous expliquer comment on gère les forêts, parce que vous nous expliquez depuis le début de cette émission qu'on ne fait pas n'importe quoi avec, avec une forêt. Quand on a, la chance d'être propriétaire d'une forêt, eh bien, il faut s'en préoccuper, l'entretenir et penser à l'avenir. J'évoquais la tempête qui vient de traverser la France. Alors c'est vrai que dans le sud, on a quand même été épargnés. Il n'empêche que ce sont des choses qui sont déjà arrivées, qui arriveront encore. Justement, comment ça se passe après le passage d'une tempête qui peut ravager toute ou partie d'une forêt? Comment on fait quand on se retrouve du jour au lendemain avec une forêt complètement dévastée, avec des arbres arrachés? Comment on s'y prend? Là, j'imagine que les propriétaires vous font appel et ont vraiment besoin d'aide et peut-être de réconfort même.
Oui, absolument. Alors, comment on s'y prend? C'est un traumatisme, hein, après un passage venteux, de faire le tour de sa forêt et de voir que les arbres sont tombés. Effectivement, souvent, on a hérité de la forêt, on l'a mise en gestion, voilà, on a continué ce qu'avaient fait nos parents. Donc c'est difficile, hein, c'est douloureux effectivement de constater que ces arbres sont tombés.
Parce qu'il y a une histoire derrière.
Parce qu'il y a une histoire derrière, il y a de l'affection. Ouais. Souvent, il peut arriver. Hein. Alors j'ai en tête effectivement une propriétaire avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans. Elle venait de faire éclaircir sa parcelle de mélèze et quelques mois après, il y a eu un coup de vent très localisé. Et donc, elle a une partie des arbres qui sont tombés. Oui, ça a été un moment difficile. Elle avait planté les arbres petits avec ses parents. Voilà, donc effectivement, il faut pouvoir être accompagné. Comment fait-on? On recense les dégâts quand on est propriétaire. On appelle aussi le Centre national de la propriété forestière, hein, le technicien local, l'ingénieur local, et on dit, ben voilà, mes arbres sont tombés. Comment fait-on? On inventorie les dégâts ensuite. Donc ce qui est important, c'est qu'on n'est pas tout seul en tant qu'organisme, parce qu'il y a d'autres organismes qui sont aussi souvent impactés. Hein. Quand les arbres tombent en forêt privée, ben, ils sont aussi certainement tombés en forêt publique.
Donc là, c'est l'ONF qui gère. Hein,
donc là, c'est l'Office national des forêts pour la forêt publique. Donc dans ces moments de crise, eh bien, on va se retrouver et voir ce que nous pouvons faire tous ensemble. Donc, il y a deux choses. Il y a les propriétaires qui appellent en nous disant, voilà, mes arbres sont tombés. Nous allons recenser les dégâts et nous nous organisons aussi ensuite au niveau institutionnel pour voir comment répondre aux propriétaires, que mettre en place. Une fois que les arbres sont tombés, eh bien, il faut pouvoir exploiter les arbres tombés et les vendre. Donc on organise des regroupements de chantiers avec les exploitants et on fait en sorte de pouvoir effectivement exploiter les forêts rapidement, surtout quand ce sont des résineux, pour ne pas que le bois tombé à terre perde sa valeur.
Il arrive aussi que les propriétaires soient loin, habitent loin de leur forêt, que ce soit un héritage familial ou autre, et qu'ils n'aient pas forcément conscience de ce qui s'est passé à des kilomètres et des kilomètres de chez eux, ou qu'ils ne puissent pas parce que ils n'ont pas la possibilité de gérer. Comment ça se passe dans ces cas-là?
Ben c'est pour ça qu'il y a un recensement qui est effectué.
Obligatoirement.
Voilà. Ça dépend de l'impact du vent, mais quand il y a des grandes tempêtes comme la tempête de 99 ou de 2009...
Vous faites le tour.
Oui. On fait le tour. Voilà. Alors, effectivement, on travaille avec les propriétaires qui nous signalent ma parcelle a été impactée, celle de mon voisin aussi. Et puis, on informe aussi les propriétaires pour pouvoir recenser les dégâts.
Mais il y a peut-être des forêts qui passent entre les mailles du filet.
Alors, ça peut arriver, mais finalement, elles sont quand même assez rares, ces forêts-là. Mmh. On arrive toujours à savoir. Ce qui est le plus difficile, c'est de se trouver face à une parcelle où les bois sont tombés et de ne pas arriver à retrouver le propriétaire, tout simplement parce que les successions n'ont pas été faites et les propriétaires sont décédés depuis de nombreuses années. Ou alors, les propriétaires sont injoignables.
Et comment ça se passe dans ces cas-là?
Mais dans ces cas-là,
c'est au cas par cas.
C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. On commence par dégager là où nous connaissons les propriétaires, et puis ensuite on voit ça avec les municipalités, que faire. Voilà, tout à fait.
On entend bien à vous écouter depuis déjà presque 3 quarts d'heure, Claire Broquet-Gracia, que votre travail il est très technique, mais il est aussi très humain, et que peut-être même c'est d'abord un travail de rencontre. Une histoire de rencontre entre un ingénieur et un propriétaire.
Effectivement. Le technique, c'est une part du travail et l'humain, c'est une autre part et vraiment une très, très grande part. Et c'est vraiment ce qui fait la richesse de mon travail et du travail de mes collègues forestiers. C'est que chaque propriétaire est différent. Chaque propriétaire a son histoire, chaque forêt a son histoire. Chacun a des demandes bien spécifiques, hein, même si on pourrait les classer, les cataloguer, les hiérarchiser. Mais effectivement, le conseil que nous allons donner est un conseil qui est vraiment fonction de la situation du propriétaire et de sa forêt. Voilà, on va pouvoir avoir des propriétaires qui vont avoir une capacité d'investissement et appliquer une sylviculture, et des propriétaires qui vont avoir effectivement une capacité moins importante d'investissement dans la forêt et orienter autrement la gestion de la forêt pour que ça leur réponde davantage.
Ça, c'est vraiment le cœur de votre mission au CNPF, ce travail de conseil, d'accompagnement et de préparation, de formation pour préparer l'avenir, en fait. Enfin, vous anticipez, votre objectif, en fait, c'est que les forêts soient bien gérées aujourd'hui pour que ça dure le plus longtemps possible.
Effectivement, nous, notre objectif, c'est que les forêts soient gérées dans un cadre de gestion durable, donc la permanence de la forêt dans l'espace et dans le temps. Que la gestion forestière réponde effectivement à la production de bois, à l'accueil de la biodiversité et à la production de services pour la société, hein. Filtration des eaux, lutte contre l'érosion, lutte contre le réchauffement climatique, production d'oxygène, séquestration de CO2. Alors effectivement, il y a ça. Que nos forêts soient gérées. Alors bien gérer la forêt, ça veut aussi dire la gérer... en prenant en compte la réglementation autour des forêts. On ne peut pas couper n'importe comment, n'importe quand. Dans certains cas, effectivement, il faut faire une déclaration parce que l'on coupe.
Par exemple, pour débroussailler
Non, par exemple, il y a des seuils départementaux qui fixent les coupes. Alors, en fait, nous, notre objectif, c'est que la forêt, c'est d'accompagner les propriétaires pour qu'ils aient également, dans un cadre de gestion durable, un document de gestion. Un document de gestion, en fait, c'est un outil pour le propriétaire, hein, c'est un petit document qui prévoit sur une durée de 10 à 15 ans la gestion qu'ils vont faire en forêt et qui est renouvelable. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que au niveau réglementaire, en France, les propriétaires privés qui ont plus de 20 hectares d'un seul tenant sont obligés d'avoir un document de gestion durable.
C'est une obligation.
Voilà, c'est une obligation. Ça s'appelle un plan simple de gestion.
Donc, qui est propre à chaque propriétaire.
Qui est propre à chaque forêt. Effectivement, la forêt résineuse du Limousin n'est pas tout à fait la même que la forêt feuillue des Pyrénées.
Mais même dans les Pyrénées, ça veut dire que si on a 50 propriétaires, les 50 auront chacun un plan de gestion qui correspond à sa propriété.
Effectivement, tout à fait. Et dans ce document, effectivement, le propriétaire recense ses parcelles, recense ses peuplements forestiers, c'est-à-dire est-ce qu'il a une futaie de chêne, un taillis de robinier, enfin voilà. En fonction des grandes morphologies de forêt, des grands types de peuplements qu'il possède, il va appliquer une gestion. Donc, il a une futaie de chêne de, mettons, 30 ans. Eh bien, il va prévoir une éclaircie tous les 7 à 10 ans, par exemple, jusqu'à ce que les bois soient mûrs. Voilà, il recense tout ça dans son document. Il a une parcelle de... Il a une parcelle de résineux, il va aussi prévoir un élagage. Pour les peupliers, il faut prévoir des disquages et puis des élagages et puis couper un certain âge. Voilà, il va mettre tout ça dans son document de gestion.
Vous faites avec lui, que vous construisez avec lui.
Alors, nous l'accompagnons pour le conseil, mais après, le propriétaire rédige lui-même son document de gestion où il fait appel à un gestionnaire, un expert forestier, une coopérative, un gestionnaire forestier professionnel, qui sont des professionnels qui vont l'accompagner dans la rédaction du plan de gestion, qui vont le rédiger pour lui. Voilà, donc ça, ce sont pour les propriétaires de plus de 20 hectares, mais les propriétaires qui ont des surfaces inférieures peuvent aussi avoir ce document de gestion. Et là aussi, ils sont accompagnés de la même façon.
Donc ça, c'est vraiment l'une des trois missions principales au sein du CNPF, et c'est pareil sur tout le territoire français, ces missions d'accompagnement, de création, enfin cet accompagnement et ce conseil qui doivent aboutir à un document de gestion pour cette durée de 10 à 15 ans, et puis la formation.
La formation des propriétaires et ces documents de gestion aussi, nous les instruisons et nous les agréons. Voilà. C'est-à-dire que le propriétaire nous a sollicité pour un accompagnement, on a fait le tour de la forêt avec lui. Il a pris la tâche d'un gestionnaire forestier avec qui il a rédigé son plan de gestion, où il a rédigé son plan de gestion lui-même. Alors, son plan de gestion, s'il a plus de 20 hectares ou son code des bonnes pratiques sylvicoles, s'il a une surface inférieure. Ce document est ensuite enregistré dans nos antennes et il revient localement. Et là, nous faisons une visite de terrain, une visite d'instruction, où nous vérifions avec le propriétaire et le gestionnaire que la gestion prévue est bien durable, c'est-à-dire que ce qui est coupé sera renouvelé, la vitalité de la forêt est préservée, que les opérations qui seront réalisées permettront de produire du bois de qualité, que le bois ne sera pas coupé trop tôt, que la forêt sera correctement renouvelée, que les zonages environnementaux, Natura 2000, la présence d'espèces floristiques et faunistiques, les milieux naturels sensibles sont bien pris en compte dans la gestion forestière au long des opérations.
Voilà, alors on voit que cette mission est très dense. On sent aussi, on ne peut pas faire le lien entre tout ce que vous nous dites, tout ce travail d'accompagnement que vous faites, de conseils, et puis évidemment l'encyclique du pape François, alors l'encyclique Laudato Si, hein, il y a 8 ans, et puis la suite, l'exhortation apostolique qui a été publiée au début du mois d'octobre, Louez Dieu, Laudate Deum. À travers tout ce que vous nous avez dit, on a quand même ressenti que vous étiez sur la même longueur d'onde que ce que dit le pape François à travers cette dernière exhortation apostolique qui peut paraître un petit peu alarmiste. Néanmoins, ça se termine avec un message d'espérance, bien sûr, mais le pape François nous dit attention, il y a encore du travail à faire et on est encore loin d'avoir réalisé à quel point la main de l'homme a un peu mis à mal notre planète. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? D'abord, imagine, vous l'avez lu, cette exhortation apostolique. Alors, que vous en avez pensé? Est-ce que vous seriez aussi alarmiste que le pape François?
J'ai lu cette exhortation apostolique. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que le pape nous rappelle notre responsabilité en tant qu'être humain dans la création. Donc effectivement, oui, il m'est arrivé de penser à mon travail et aux conseils que je pouvais donner, parce que la forêt est un milieu important pour l'homme et il faut tout à fait l'entretenir, la gérer, et il faut que ça soit de façon, j'ai envie de dire, éclairée.
Mais alors, quand on vous entend, on peut aussi... Alors, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais on peut se dire, tiens, on gère la forêt pour qu'elle soit à notre service, pour qu'on puisse se chauffer, pour qu'on puisse faire des meubles, pour qu'on puisse vivre dans un environnement confortable. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ne pas trop inverser la tendance?
Alors, on gère la forêt pour qu'elle soit à notre service, effectivement, tout à fait.
Mais on doit aussi...
Mais on doit aussi la gérer de façon à ce qu'elle soit... préserver à ce que les capacités qu'elle a aujourd'hui soient les mêmes demain. Et donc, il faut la gérer de façon éclairée, comme je vous disais, mais aussi raisonnée. Voilà.
Quand vous lisez les textes du pape François sur l'écologie, vous vous dites quoi? Ouf, enfin, on a une parole forte qui va changer les choses? Ou vous dites, bah, en fait, c'est trop tard? Qu'est-ce que vous pensez?
Alors, moi, je suis pratiquante et croyante.
Donc, pleine d'espérance.
Donc pleine d'espérance, voilà. Alors, je me dis que le pape a raison de nous alerter. Parce qu'effectivement, il faut quand même aussi... C'est important de réfléchir à ce que nous faisons. Est-ce qu'il est trop alarmiste? C'est-à-dire que oui, nous, nous sommes des habitants d'un pays développé. Effectivement, on sent les effets du réchauffement climatique, mais on n'a pas de manque d'eau, on n'a pas de...
On ne subit pas de plein fouet les conséquences comme
dans d'autres pays,
comme dans
par exemple.
Pays où c'est dramatique, oui.
Donc voilà. Par contre, effectivement, je me dis qu'à notre échelle, dans notre pays développé, avec notre forêt qui pousse bien, on est un maillon de l'écosystème, un maillon de... Et on est tous en interconnexion, en fait, en interaction. Et donc, effectivement, c'est primordial de prendre en compte les richesses de nos forêts et d'accompagner cette gestion.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier, ce côté-là, justement?
Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est qu'en fait, c'est la rencontre avec les propriétaires. Effectivement, bien sûr. Et ce côté technique, et c'est ce que j'aime en fait, c'est que je trouve qu'on est toujours créatif dans notre métier, toujours émerveillés parce qu'on ne voit jamais les mêmes choses. Et on doit répondre à des situations qui sont toujours différentes parce que les forêts sont différentes, parce que le propriétaire est différent, parce que son souhait est différent. Et même si notre grand objectif est la gestion durable des forêts, eh bien, c'est toujours... nos réponses sont toujours variées. Mais on a quand même, effectivement, cet objectif de conciliation des fonctions de production, de prise en compte de la biodiversité. Et effectivement, on sait bien que... On va répondre au propriétaire pour la gestion de sa forêt, mais quelque part, la gestion de sa forêt, voilà, on va le guider aussi pour que la gestion de sa forêt ait un impact positif sur le reste de l'écosystème et de la société, en fait.
C'est ça, l'écologie intégrale.
Une forêt qui pousse bien, une forêt en bonne santé, qui éclaircit au bon moment avec les arbres dans le bon sol. Une forêt qui est vivante, finalement, c'est une forêt qui va stocker qui va séquestrer du CO2 pour l'ensemble de la société. Et donc, en fait, l'acte forestier du propriétaire va profiter à sa forêt, mais aussi au reste des forêts et au reste des habitants de la planète.
Pour conclure, on pourrait dire que en prenant le temps de bien gérer nos forêts ici, même nos petites forêts, c'est un moyen assez facile, du moins accessible, qu'on peut se donner ici dans notre environnement qui est quand même assez confortable, il faut bien le dire, vous l'avez rappelé. C'est une petite pierre à l'édifice du travail que nous demande le pape François dans l'encyclique Laudato Si, puis qu'il renouvelle dans cette exhortation apostolique Laudate Deum. En prenant soin de nos forêts, on contribue à l'écologie intégrale.
Complètement. Complètement, parce qu'en prenant soin de notre forêt, on prend, par effet de ricochet, soin d'autres milieux.
Merci beaucoup, Claire Brock et Gracia, d'être venues dans cette heure de pointe malgré votre mal de gorge. Merci beaucoup. Je rappelle, Claire Brock et Gracia, que vous êtes ingénieur forestier au sein du CNPF. C'est le Centre National de la Propriété Forestière. Et avec vous, aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses sur la gestion des forêts. Un grand merci à vous.
L'heure de pointe. Anne-Rose Jankovic.